Vous écoutez L'Autre Monde, nous sommes au Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême et nous sommes avec Didier Tarquin et Élise Tarquin pour discuter, sorti aux éditions Glénat, de UCC Dolores, tomes 1 et 2. Bonjour.
Eh bien bonjour.
Bonjour.
Comment ça se passe Angoulême? Vous êtes des habitués des lieux, alors surtout en tant que dessinateur de l'Enfance de Troyes, forcément vous connaissez par cœur Angoulême, mais cette année, venir en plus pour UCC Dolores, ça fait quoi?
C'est pas pour n'importe quel UCC Dolores, c'est pour le 2. C'est le 1, c'est l'album du track, parce que mon Dieu, il sort, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir droit à une Rola ou alors à des jets de caillasse, hein, mais le 2, il est particulier. Le 2, c'est en fait, on est particulièrement content et détendu et on bombe le torse parce que laisser transformer, les gens ont aimé. Le 2 monte la série au-delà du 1. Donc aujourd'hui, on frime.
Ben nous, on est contents de venir à Angoulême parce qu'on rencontre notre public, on a des retours en direct sur ce que les lecteurs ont aimé. Enfin, c'est vraiment chouette d'être là. Puis après, au niveau professionnel, c'est toujours important. C'est un moment important de l'année pour un auteur BD.
Tome 1, on ne va pas revenir dessus plus que ça puisque c'est une présentation, une rentrée dans l'univers. Et tome 2, on va un peu plus dans l'histoire et on découvre aussi un peu de passé pour certains. On part sur un premier arc en 3 tomes et après plein d'autres histoires. Suite au succès, on va dire, du premier, est-ce que vous avez fait des petites modifications sur le deuxième ou est-ce que vous avez tout écrit sur votre première trilogie?
En fait, l'idée de départ, je vais pas en bouger, tout est déjà très en place entre le 1, le 2 et le 3 même qui est en chantier en ce moment. Est-ce qu'il y a modification? Heureusement que oui. Parce que une histoire, c'est quelque chose qui peut être changé, amélioré à n'importe quel moment. J'ai presque envie de dire, presque chez l'imprimeur, s'il faut changer une bulle, si c'est possible et qu'on a un doute, et surtout ne pas s'en priver. Moi, je suis cinéphile. Des histoires de films qui ont été changées au dernier moment, au montage, ou qui sont des chefs-d'œuvre, tout ça. Et il y en a plein des histoires comme ça. Et il faut surtout jamais penser que c'est figé. Surtout pas. Surtout pas.
Comment est-ce que vous vous organisez sur scénario, dessin, si c'est potentiellement en perpétuel mouvement? Alors, ça veut dire que vous avez un jeu de ping-pong ou...
Les frontières sont poreuses, j'ai envie de dire. Voilà. Moi, je vais intervenir, on va dire, pour caricaturer plus sur la partie visuelle. Et Didier plus sur le scénario, mais c'est vrai qu'il me parle du scénario, qu'il y a un retour direct, où je lui dis « Ah non, ce personnage peut pas faire ça, ça trahit son caractère », ou alors « Mais si, tu as raison, super, et on pourrait faire ça ». Mais il est à l'origine de l'univers, il a créé cet univers qu'il a en lui depuis d'ailleurs très longtemps, et je suis d'ailleurs ravie que les bouquins soient sortis, parce que c'était un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Puis après, moi, je peux peut-être donner des idées de décor en lui disant, tu sais, ça serait chouette si on travaillait, je sais pas, un peu, pour donner un exemple, façon Avatar, la bioluminescence, ouais. La nuit, voilà. Et donc, du coup, ça amène nos personnages dans un décor qui était peut-être pas prévu au départ. Lui, il rebondit dessus. Et en fait, voilà, il y a un ping-pong qui se fait. Ça, c'est pour la partie scénario. Pour la partie visuelle, moi, je vais récupérer ces pages qu'il dessine à la main sur papier. Je les numérise. Et puis là, je vais nettoyer, monter, peut-être amener des éléments de décor, peut-être retoucher au niveau anatomie des personnages ou des expressions, peut-être lisser un ensemble, puisque les pages s'étalent sur une année dans la création, donc pour donner un peu plus de cohérence. Et après, la partie couleur, là, je suis assez libre d'amener justement là aussi peut-être des éléments de décor en couleur directe ou de créer, par exemple, on a un personnage là qui apparaît déjà dans le 1 qui s'appelle Rico et qui est un peu le gros méchant qui les poursuit. Pour moi, il me faisait penser, puisqu'on est dans un western intergalactique, à ces personnages qu'il y avait pendant la ruée vers l'or. Donc il me semblait naturel d'ajouter une dent d'or dans sa bouche pour la couleur en fait suit. J'essaye qu'elle soit narrative et qu'elle accompagne complètement le scénario et l'univers de Didier.
Avec un processus de création linéaire finalement, on va dire page par page, il y en a certains qui des fois se disent bon alors là je vais avoir une double page, je vais la garder pour la fin même si on la retrouve à la moitié de l'album. Vous le faites au fur et à mesure?
Je ne peux pas le faire comme ça. Je sais que il y en a certains qui dosent leur effort comme ça, qui savent qu'à quel moment ils ont encore sous la pédale et à quel moment ils vont être fatigués. Donc ils se disent, je sais qu'à ce moment-là, quand je serai fatigué, je vais faire toutes les scènes de dialogue où il n'y a que des têtes et tout ça. Moi, c'est juste impossible parce que en fait, on n'a pas tous le même logiciel en nous. Moi, en fait, je fonctionne au ressenti. Je ne peux pas dessiner la troisième scène si je n'ai pas dessiné la deuxième scène parce que je suis dans la continuité. Je fais le voyage en même temps que les personnages. Je vis les choses en même temps qu'eux. Et donc, je suis obligé d'être dans la chronologie, en fait. Pour moi, je suis pour l'instant... je les suis pas à pas, je les accompagne. Donc, je ne peux pas avoir la fin avant le début, et ça, c'est pas la vie, ça marche pas comme ça.
Ça vous permet d'échanger aussi avec vos personnages, ils vous disent ce qu'ils voudraient faire, comme vous les accompagnez depuis longtemps, visiblement Est-ce que vous avez cette relation avec vos personnages?
Ils le disent de plusieurs manières. Quand on crée, il y a un moment donné, au niveau de l'écriture, hein, d'abord, il y a un moment donné où on n'écrit plus, on nous dicte quelque chose. Et il y a un moment donné, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, j'entends leur voix. J'assure, j'ai arrêté la coke depuis longtemps, mais et j'entends toujours leur voix. Donc voilà. Et donc, et ils ont leur manière de parler de ça. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est que ça y est, ils ont pris corps. Ensuite, il y a le dessin. Dans le dessin, il y a des moments où tout d'un coup, on peut pas le dessiner n'importe comment. Ils vont pas avoir la même gestuelle. Il est clair qu'une personne extravertie va pas bouger de la même manière qu'une personne qui sera introvertie. Et puis, il y a aussi une troisième manière de dire les choses, c'est-à-dire que, pour eux de me parler, de dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, c'est qu'une fois qu'ils sont sur la page, ils existent, et ils vont transmettre à d'autres ce qu'ils sont. Les autres, ce sont les lecteurs, et c'est là où Lise intervient. Elle va me dire, tiens, c'est marrant, elle est pas un peu différente à ce moment-là, Moni, je l'aurais vue peut-être un peu, et là, ah, elle a peut-être pas joué comme il faut son truc complètement. Mm-hmm. Alors, des fois, je suis d'accord, des fois, je suis pas d'accord, après, c'est à moi de définir le truc, mais, donc, oui, et puis, de toute façon, les personnages, maintenant je le sais parce que j'ai fait une autre série au long cours, hein, L'Enfeust en l'occurrence, il y a des choses à un moment donné, plus l'histoire avance, plus on fait des albums, et finalement, plus finalement on suit les personnages, finalement c'est eux qui font l'histoire à un moment donné.
Vous avez plein de personnages qui, on va dire, ne renvoient pas forcément visuellement ce qu'ils sont vraiment, je m'explique. On a donc un pilote tatoué, moustachu, qui a l'air en vrai d'être un gros nounours. On a une organisation qui recueille des orphelines, on a vraiment l'impression que c'est la mafia en réalité, etc. etc. Vous aimez, façon de parler, jouer avec les codes visuels et après obliger les gens à réfléchir?
Les gens qui feuillettent le bouquin ont très vite comprendre que je suis un geek et que j'aime la pop culture. Et la pop culture est faite de stéréotypes. Et ce qui est bon avec les stéréotypes, c'est deux choses. La première, c'est qu'on gagne du temps. Si je mets un type super costaud, super badass, c'est clair que lui, c'est pas un danseur du Bolshoï, donc il va latter tous les mecs qui vont l'emmerder, et voilà. Et si je mets une petite nana avec une auréole, ça va être loi blanche. Donc déjà, voilà. Mais, donc je vais gagner de la place et du temps. Tout de suite, on saura, ah oui, lui, c'est... Et alors après, ce qui est intéressant, justement, c'est de prendre les gens après à contre-pied. C'est de se rendre compte que finalement, le gars costaud, badass, c'est pas si badass que ça, et que loi blanche va pas rester blanche bien longtemps.
Ouais, elle a pas fait que couture pendant les cours, visiblement.
Il vaut mieux pas, non. C'est... Ouais, je vais y penser quand même. Couture, c'est pas mal finalement pour l'aventure.
Vous disiez des références cinématographiques, elles sont nombreuses. Vous jouez en plus avec le lecteur. Il y en a combien? Il y en a 7, 8 des vaisseaux dans le tome 1?
C'est elle qu'il faut poser la question parce que le jeu caché. Ouais. Alors, normalement, c'est moi qui mets des jeux cachés, mais cette fois-ci, là, sur le 1, je me suis fait tirer l'oreille parce que je ne l'ai pas mis. Et Elise m'a dit, mais ça, c'est ta griffe. C'est toi qui caches des jeux. Donc j'y mets là, oui j'y ai pas pensé mais je peux plus les mettre, mais t'inquiète, je vais m'en occuper. Quand tu parlais des sous-cachés, c'est à elle qu'il faut poser la question.
Et après on retrouve encore des références, mais cette fois sur des robots, quand on retrouve donc des vestiges. C'est un jeu avec les lecteurs ou c'est un jeu entre vous, ce genre de référence là, comme ça?
Les deux, c'est du jeu. De toute façon, quand sur Dolores, on joue. Je l'ai dit pas une fois, mais de toute façon, c'est ce qui résume le mieux. C'est Toy Story. Je suis Andy et je joue dans ma chambre et avec Lise et on fait Dolores. Et donc, on prend des personnages comme ça, très différents, qui ont un côté, tiens, lui, il a des griffes à la Wolverine, etc., etc. Bon, c'est vrai qu'ils sont... Et puis, on fait notre petit jeu avec ça. Et après, bah, les références, elles sont très visuelles. Elles se voient. On ne tient pas à les cacher. Donc oui, c'est par jeu. Et puis, c'est un petit clin d'œil. Et il s'avère que nos lecteurs, apparemment, ont le même coffre à jouer que nous. Puis voilà, c'est assumé. Je pense que le mieux, c'est d'assumer. Il n'y a rien de pire, je pense, que quelque chose qu'on fait ou qu'on est et qu'on essaie de cacher comme ça. C'est, à un moment donné, je pense que c'est une forme de sincérité de l'assumer aussi. C'est, je sais pas, c'est un peu une déclaration d'amour aussi à toutes ces choses-là. Moi, je suis un geek des années 80. Lise est une geek des années 90. Et voilà, et on est branché Star Wars, Star Trek, et puis tous les Star machin, et puis tous les trucs genre Terminator, etc., etc. On a des gamines qui sont à fond sur Retour vers le futur. Enfin bon, quoi.
Il y aura une histoire autour des tatouages. Tout l'équipage, on va dire, semble avoir ce genre de tatouage sur les épaules. Est-ce que le format est important? Est-ce que c'est juste un élément comme un autre?
Ben non, le tatouage, non. J'aime bien quand il y a un logo fort. Okay. J'aime bien quand les choses sont... je sais pas, même dans l'Enfeust, je le faisais. Hein. Cash a ses tatouages sur l'épaule parce qu'il faisait partie d'une un gros un gladiateur exterminateur de robots. C'est l'homme contre la machine. Et puis, bah voilà, au lieu d'avoir un t-shirt avec un numéro 10 dans le dos, bah lui, il a ce type de tatouage qui fait qu'il est reconnaissable.
C'est le tatouage du trio.
Oui, c'est ça.
Oui.
C'est dans sa jeunesse quand il fait les jeux. Les combats avec les robots.
C'est du design. Les BD comme Dolores, ça doit frimer. C'est de la pure frime. Voilà. Après, ça ne nous empêche pas de mettre dedans des choses qui peuvent être des réflexions sur le monde, des choses qui nous plaisent, qui ne nous plaisent pas, etc., etc. Mais visuellement, ça doit frimer. Donc, un gros tatouage sur gros biceps, ça frime.
Très futuriste et en même temps un côté très classique, c'est-à-dire que sur les pistolets, on est sur du western, les religieux, on est sur, ça fait penser aux Templiers ou à l'Inquisition, etc. Ku Klux Klan, effectivement. Ce mix-là, c'est vraiment le côté rétro-futur, façon de parler. C'est quelque chose qui vous plaît et que vous allez exploiter à fond là-dedans.
On est dans un monde qui n'existe pas, mais il faut que le lecteur il trouve des repères. Il faut que tout de suite il s'enchante chez lui. Comment tu peux faire pour que les gens se chantent chez eux dans un endroit qui n'existe pas, dans lequel ils n'ont jamais été? Il faut se servir de choses. Si je mets un flingue, je parle flingue. Si je mets un flingue avec un barilé, ça fait tout de suite western. On sait que dedans va y avoir des balles, donc un certain type de blessure. Si maintenant je mets un quelque chose qui ressemble à un laser, ça va être autre chose, ça va être une autre technologie. On va tout de suite partir sur d'autres choses. Moi, j'ai envie de faire une technologie usée. Ces types-là, c'est des gens, ils prennent l'Ouest, le Grand Ouest en fait. Ils prennent la piste. Et pour moi, si on n'avait pas été en science-fiction, ils auraient été sur un char à bœuf et ils auraient eu avec eux des choses qui marchent moyennement, voire pas, fatigués, tout et tout. Et ils tentent l'aventure. Donc voilà, c'est ça, c'est ça.
Avec ce qu'ils ont dans un espace infini, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, puis après, c'est une question de sensibilité. Je crois que je m'emmerderais à dessiner quelque chose de ligne claire. Très, très froid. Il y en a qui font ça extrêmement bien, hein, et que j'admire d'ailleurs. C'est pas ce qui sort de mes mains.
C'est une histoire d'hommes et de femmes, une exploration, une quête.
Non. C'est une histoire de femmes et d'hommes. Pas d'hommes et de femmes. On part de Moni au départ, et ensuite elle trouve Cash. Pour moi, si je dois résumer de manière très simple, c'est une nana qui est une noix blanche, et qui a zéro vécu, qui n'est rien. Et qui ne peut pas vivre dans ce monde-là, qui est violent, parce qu'elle n'a pas assez de vécu pour pouvoir y vivre. Elle va se faire bouffer. Je ne lui donne pas une semaine. Et elle va rencontrer un type, c'est l'inverse. Il a trop vécu. Et je ne lui donne plus une semaine. Il attend la mort, ce type. Et ensemble, ça va faire des étincelles. C'est ça qui est intéressant.
Ça va changer leur destin, voilà. Finalement.
C'est bien dit, hein.
Vivement le 3. Vous avez pensé éventuellement à une bande-son à écouter en même temps qu'on lit la BD ?
Vas-y, à toi.
Oui, Didier, à chaque fois qu'il travaille déjà, il a la musique, il a sa petite sélection, il s'est fait sa playlist avec du métal, des guitares saturées. Et oui, il écoute ça en même temps. Il écoute aussi beaucoup les musiques de films avec les grands compositeurs, les musiques aussi de Ennio Morricone, western, etc. Et oui, Didier a toujours de la musique dans sa tête. Moi, j'ai des documentaires devant moi. Moi, j'ai la télé, j'ai beaucoup de documentaires sur l'espace, sur la nature, sur la végétation. J'adore. Et ça me permet de rester concentré plus longtemps sur mon travail en même temps. Des fois, je lève les yeux, je vois une planète. Ah, tiens, je pourrais faire la planète comme ça. Et voilà, et ça, c'est plus Didier, la musique.
Ouais. Par exemple, l'UCC Dolores, le vaisseau, quand il décolle, pour moi, c'est Thunderstruck de AC/DC. Il faut un truc lourd qui balance grave, des guitares saturées, et ça sent la rouille. Il faut que ça sente la rouille, et il faut que ça pisse l'huile. Voilà, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a un paquet, là tu me prends un froid, et il y a du Alan Silvestri aussi. Alors là, on est dans la musique, vraiment. Il y a des remixes aussi de certains trucs de Depeche Mode. Parce qu'il y a des trucs très métalliques, des bouts de tuyaux, des trucs comme ça. Après, il y a des choses que les gens ne connaissent pas. Donc ça va être difficile de leur en parler, quoi. Un truc qui s'appelle Madrugada, qui est très très bon. Voilà. Mais c'est des trucs un peu... Il faut qu'il y ait un côté route 66, poussière. Des trucs, c'est comme ça, quoi. Du blues aussi.
Un tome 3 qui devrait sortir du coup
à la fin de l'année.
Ouais, fin d'année.
Ok. Non, ouais, pour Noël. avec une pagination plus importante.
Ah, ok.
Il y aura, je pense que ce sera un 60, en tout cas autour
de
20 pages de plus. On veut un beau bouquet final. Pour clôturer ce premier cycle qui est la genèse, en fait, qui installe tout l'univers, avant de repartir pour de nouvelles aventures dans les étoiles.
En fait, j'écris le scénario à un an avant de le dessiner. Donc, ce qui fait que là, je suis dans une période de l'année qui est assez, assez marrante, parce que je suis en train de dessiner le 3, et dans 15 jours, j'écris le 4. Et ça va me permettre, je sais déjà que dans le 4, j'ai besoin d'un personnage qui n'est pas dans le 3, et que je peux encore, j'ai encore la place pour l'inclure dans le 3, donc ça va me permettre de resserrer le maillage entre ces deux albums, le 3, la fin d'un cycle, et le 4, le début d'un autre, qui fera, sauf erreur de ma part, deux albums, donc un diptyque. Et comme le disait Lise, en fait, pour moi, le top départ de l'histoire, c'est le 4. Mais j'avais besoin de ces trois premiers albums pour expliquer comment ça se fait que ces gens-là, qui ont normalement rien à faire ensemble, puissent faire cette équipe. Comment ça se fait qu'une idéaliste comme Moni puisse être dans un vaisseau de guerre, etc. etc. Et j'avais envie d'expliquer ça, et finalement, ça a fait une histoire, en fait. Expliquer ça, c'était déjà une histoire. Donc voilà, les trois premiers. Beaucoup de surprises après, sur les quatre. Et la scène d'ouverture du 3, là, qui est faite déjà, donc il y a déjà beaucoup de réponses. Parce que c'est ça le truc, c'est de distiller comme ça, de part et d'autre dans l'histoire, des questions qui maintiennent en éveil le lecteur. Là, maintenant, le 3, c'est celui où il faut qu'il y ait des réponses. Donc là, ça devient intéressant, je trouve, parce qu'on finit de mettre en place la mythologie de Dolores, en fait.
Pour terminer nos interviews, tous les ans, on a une question différente cette année. C'est une question nourriture. C'est-à-dire que je vous propose de manger, au choix, une pizza avec les Tortues Ninja,
ouais,
des donuts avec Homer Simpson, un onigiri avec, par exemple, les personnages du One Piece, un lambas avec Legolas, ou sinon une bière au beurre avec Harry Potter. Vous prenez quoi ?
Legolas.
Ouais.
Pourquoi ?
L'esprit
de beau gosse ?
Exactement.
Non, demande,
et puis du pain elfique, tu tiens longtemps. Il n'y a rien de plus
nourrissant. Mais ça, c'est un truc de nana pour pas grossir. Tortues Ninja.
Ouais, bah oui.
Mais ils sont quatre, des super potes. Et puis tu tiens très très bien avec une pizza. Qu'est-ce que tu racontes ?
Merci beaucoup.
Ouais.
Merci à toi.
Merci.